France Culture, l'esprit public, Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, une société d'héritiers, est-ce souhaitable ? Nous serons avec Michel Vivorca, Sophie Galabru, Natacha Valla et Arthur Chevalier. Cette émission a été préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Swad Boukorsa.
Les travaux démontrent que, pour ce qui est de l'expansion économique récente, les inégalités de revenus et de niveau de vie ne disparaissent pas. En va-t-il de même, monsieur Cuisonnier, pour ce qui concerne les inégalités de fortune ?
Il faut d'abord noter, au sujet de ces inégalités, que nous avons une grande ignorance. Nous connaissons très mal, en réalité, la composition du patrimoine des familles. Et nous connaissons plus mal encore leurs attitudes à l'égard de ce patrimoine, ainsi que leur capacité d'épargner et par conséquent de former des patrimoines nouveaux. Mais qu'est-ce qu'on entend par patrimoine ? Ce sont des terres, ce sont des maisons, ce sont des paquets d'actions et d'obligations qui engendrent un certain revenu. Or, naguère, le problème du logement constituait pour les familles une difficulté beaucoup moins grande qu'aujourd'hui.
Un extrait des grandes enquêtes de l'ORTF en 1966 et déjà ses interrogations sur l'héritage et les inégalités. Pierre Bourdieu, qui a théorisé les héritages des trois capitaux économiques, sociaux et culturels, est l'invité de la même émission un peu plus tard. Pourtant, à l'époque, la façon de se constituer un patrimoine est plus diversifiée qu'aujourd'hui. De 35% par l'héritage, nous en sommes à 60%, au point d'alarmer tous ceux qui remarquent que le travail ne paie plus. Ainsi, la question de l'héritage, aussi inflammable soit-elle dans la société française, est loin d'être une nouveauté. Nous héritons des notions de succession et de testament du droit romain. Et depuis, le sujet, intimement lié à la vie et à la mort, ne nous a jamais quittés. Mais s'il prend une place importante dans les débats d'actualité en plein examen du budget à l'Assemblée sur fond de crise politique, c'est qu'une grande transmission s'apprête à être vécue. 9 000 milliards d'euros, soit trois fois le montant de la dette française, vont être transférés d'ici 2040 d'une génération à une autre. L'héritage des baby-boomers, cette génération née après la guerre, particulièrement nombreuses, qui s'en vont. Dans un contexte où les Français sont bien plus propriétaires qu'autrefois, mais où la crise du logement fait rage. Du 19e siècle à aujourd'hui, sommes-nous ou avons-nous été dans une société d'héritiers ? Et si oui, est-ce grave ? Comment mieux réguler et que nous disent ces histoires de famille et de transmission ? Nous avons une heure pour en discuter. Bonjour Michel Vivorca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Directeur d'études à l'EHESS, co-auteur avec Jean-Jacques Augier de The Family, une extraordinaire saga dans l'univers des startups chez Calman Levy. Ça vient de sortir en octobre. Natacha Valla, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être la doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po, ancienne directrice générale adjointe chargée de la politique monétaire à la BCE. Sophie Galabru, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, professeure de philosophie. Faire famille, une philosophie des liens. C'est votre ouvrage paru en 2023 aux éditions Alary qui a reçu le prix du livre de philosophie des lycéens. Il est sorti en poche cette année. Et j'accueille Arthur Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Auteur, éditeur, chroniqueur, je cite votre dernier livre, L'histoire à l'épreuve des émotions. C'était aux éditions du Cerf en 2024. Alors sommes-nous dans une société d'héritiers, Arthur Chevalier ?
Oui, nous sommes dans une société d'héritiers, je pense qu'il faut le dire. Et d'ailleurs, il y a une chose très intéressante avec la réaction que suscite l'héritage, c'est que c'est la dernière solidarité entre les riches et les pauvres, je dirais. C'est-à-dire que vous voyez qu'alors que très peu de gens sont concernés par la surtaxation de l'héritage, 15% des Français à peu près, eh bien, vous avez 8 Français sur 10 qui pensent que on ne doit pas taxer l'héritage. Alors que c'est 8 Français sur 10, parmi eux, il y a évidemment des tonnes de gens, l'écrasante majorité, qui ne sera de toute façon jamais concernée. Ça renvoie à deux choses. La première, c'est à une croyance, celle du trésor qui pourrait tomber. C'est-à-dire que, alors même qu'ils ne sont pas concernés par cette surtaxation, ils imaginent que peut-être une tante, quelque part, une marraine apparaîtrait et leur donnerait plusieurs centaines de millions d'euros que l'État leur prendrait en grande partie. évidemment, tout ceci ne se produit jamais ou quasiment pas. L'autre, c'est que ça raconte quelque chose du futur. Autrement dit, pour se projeter dans le futur, nous avons besoin de appréhender notre passé. Voilà. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, et on ne pense à nos enfants qu'en fonction de nos parents et de nos grands-parents. Nous sommes tous de petits historiens de notre propre histoire. Donc, tout ça nous mène à une question évidente, et pour moi, c'est la plus intéressante, tout simplement. Pourquoi est-ce que nous sommes à ce point obsédés par notre héritage pour continuer à vivre ? Je pense, et je m'arrêterai là, que c'est une matérialisation de la vie contre la mort. C'est une pierre posée contre la mort. Nous héritons, ça veut donc dire que nous pourrons faire profiter nos enfants de notre héritage. C'est la garantie qu'on ne disparaît jamais complètement.
Michel Vivorca.
Moi, je pense que... Enfin, la question qui m'intéresse, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans une société pour que brusquement... le débat s'emballe sur cette question. C'est ça la question qui m'intéresse. Au 19e siècle, je parle devant des gens certainement plus compétents que moi, mais au 19e siècle, on s'est mis à parler, dans la littérature, Balzac, Zola et d'autres, on s'est mis à beaucoup parler de l'héritage. C'est pas un hasard complètement si, dans cette société très post-révolutionnaire, ça vient comme ça. Et donc moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre société, et je dirais depuis une quarantaine d'années à peu près, ou une cinquantaine d'années, qu'est-ce qui se passe dans notre société qui fait que le thème nous agite à ce point ? C'est ça qui m'interpelle, et je pense qu'il faut regarder vraiment des choses très importantes. Comment des couches moyennes se sont constituées et se sont enrichies ? Comment la famille se transforme ? Moi, les histoires de... C'est la continuité de la famille. Je trouve ça hallucinant dans une société où il y a des familles monoparentales, des familles recomposées en si grand nombre. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'héritage quand tous ceux d'entre nous qui avons des enfants, nous voyons bien que ces enfants à l'école fréquentent des enfants dont les familles sont bien compliquées. C'est rarissime, une famille... classique. Enfin bref, alors qu'est-ce qui se passe dans notre société, voilà, qui nous enflamme sur ce registre ? Ça m'intéresse beaucoup.
Eh bien, j'espère qu'on va donner quelques réponses ce matin. Natacha Valla ?
La question de l'héritage, pour moi, alors il y a le point de vue de l'économiste. Moi, j'ai fait un chapitre de ma thèse sur les inégalités, c'est un peu lié, mais quand même, c'est pas superposé. Cette obnubilation par l'héritage, je pense qu'elle exprime quand même beaucoup de faisceaux qui sont pas forcément... qui correspondent pas forcément exactement à l'héritage, la question de la mobilité sociale. Peut-être que les potentialités qu'offre l'économie aujourd'hui de mobilité d'une génération à l'autre, ou alors dans le courant d'une trajectoire de vie, sont pas les mêmes que ce qu'elles ont pu être il y a une génération ou deux, enfin de mémoire d'homme. Donc peut-être que ça interpelle, il y a une sorte de forme de bouc émissaire qui s'exprime là. Il y a la question de la pauvreté. On mesure beaucoup mieux la pauvreté aujourd'hui. L'INSEE regorge d'études sur la pauvreté relative, la pauvreté absolue. Et là, effectivement, l'héritage se porte en faux par rapport au fait que quand on est pauvre, on a le sentiment de... Voilà, donc c'est choses différentes. La question du niveau de vie moyen... qui a changé. Est-ce que c'est grâce à notre capacité collective à accumuler du capital et donc à produire plus ou pas ? Quelles sont les incitations ? Il y a cette chose-là. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on a des cadres d'analyse de cette notion d'héritage, de transmission, vous l'avez bien évoqué, transmission intergénérationnelle, mais aussi transmission dans le temps de façon plus longue, qui apportait des économistes à vouloir comprendre pourquoi, grand Dieu, on voulait accumuler pour quelqu'un d'autre qui n'existait pas encore sur cette terre-là. Et là, je reviendrai pas encore maintenant, ça viendra peut-être dans le débat tout à l'heure.
Vous
mais
pouvez.
Moi, ce qui m'avait choqué quand j'avais regardé ces théories à l'époque, c'est qu'on partait des théories de Franco Modigliani, qui a été prix Nobel quand même pour d'autres théories, mais il a fait la théorie du cycle de vie. Et selon lui, on arrivait à accumuler du capital comme ça parce que dans notre propre cycle de vie individuelle, on avait une phase où on avait besoin de consommer plus que ce qu'on était en état de produire. Vous ne demandez pas à votre enfant de 5 ans d'aller générer l'équivalent des coûts de sa scolarité ou de ses coûts de santé, par exemple. Et puis inversement, il y a une phase dans la vie où on arrive à plus pouvoir faire autant que ce qu'on... Donc il y a cette trajectoire au sein du cycle de vie qui se portait en faux par rapport à ce qu'on observait socialement. Cette envie d'accumuler, comme vous le disiez si bien, pour un point dans le temps où on ne serait plus. Et donc, cette notion s'est transformée en la notion de... Les Américains appellent ça le gant chaud, the warm glove. C'est un motif pour l'héritage qui est celui de dire, ben voilà, il y a beaucoup d'incertitudes dans ma propre vie, mais dans les trajectoires futures. J'ai une nécessité d'épargne pour moi-même, mais qui me pousse à vouloir aussi l'exprimer par rapport à ces individus qui sont là en même temps qui chevauchent ma propre vie. Et donc, ces motifs-là ont été, pour des raisons qui, dans d'autres sciences, auraient été présentées comme irrationnelles, des raisons qui ont été rationalisées, j'exprime les choses de façon un peu emphatique, mais en tout cas, cette rationalisation d'éléments qui auraient pu compter pour irrationnel et qui a finalement permis, à un niveau macroéconomique, l'accumulation du capital et l'élévation du niveau de vie de façon moyenne.
Alors, si les économistes se sont penchés sur cette question, je n'ose imaginer ce qu'en disent les philosophes. Qu'est-ce que nous dit la philosophie Sophie Galabru sur cette question de cette notion qu'on entend, qui est si présente, de laisser quelque chose à nos enfants?
Oui, et moi je crois que si les gens s'opposent assez massivement, parce que c'était la question de départ, au principe, de la taxation successorale, c'est à mon avis pour trois raisons. D'abord parce que même si on n'est soi-même pas un légataire ou un destinataire d'héritage, on peut être attaché à la liberté de donner, de transmettre. On peut être attaché aussi à une éthique de transmission et de continuité dans sa famille. Et même si on n'a pas d'argent, on sait très bien que l'héritage n'est pas que financier. Il peut être, on en parlera peut-être plus tard, mais il peut être symbolique. Il peut être dans l'ordre des valeurs, des désirs. Et les gens, même s'ils n'ont pas d'argent, savent très bien ce que c'est que de transmettre. Et ils peuvent aussi avoir envie, et c'est le troisième point, de transmettre financièrement, parce que travailler pour protéger sa progéniture ou d'autres qu'on voudrait protéger, ça peut être un principe moteur dans la vie professionnelle. Et je pense que ce qui relance le débat sur l'héritage aujourd'hui, d'autant plus férocement, c'est que le travail ne paye plus autant que l'héritage. Et donc, je pense que les gens aimeraient que le travail paye davantage pour peut-être pouvoir éventuellement d'ailleurs thésauriser un peu ou transmettre à leurs enfants. Et on sait en plus aujourd'hui dans le contexte économique que ceux qui n'accèdent pas à l'héritage, enfin ceux qui n'ont pas d'héritage n'accèdent pas à la propriété par exemple. Donc en fait pour des gens plutôt jeunes, l'héritage peut être décisif aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a cette question-là qui vient rejouer, nous focaliser sur la question de l'héritage.
Arthur
Chevalier. Oui, je voulais rebondir sur ce qui a été dit à la fois par Natacha et Michel Vivorca. C'est-à-dire que vous parliez de la Révolution française et de la société post-révolutionnaire. Et j'ai un scoop pour vous à propos de la Révolution française. Un scoop qui a été révélé par un journal publié par l'Université d'Oxford qui s'appelle le Journal of Social History. C'est un article de 2016. Une étude, la première très sérieuse, a été faite sur la mobilité sociale produite par la Révolution française. Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment eu des gens qui ont fait carrière grâce à la Révolution et grâce à cette rupture politique? La réponse est non. Pas du tout. On constate une absence totale de mobilité sociale avant 1789 et après 1789.
À part les députés peut-être?
Même pas, parce qu'en fait c'était pas un biais d'enrichissement. Et ça ne commence vraiment, justement, et ça rejoint notre sujet, qu'aux Trente Glorieuses. Donc ce que ça signifie, c'est alors qu'au XIXe siècle, on a été obsédé par un fait politique et culturel, la Révolution française, dont je ne nie absolument pas ni l'intérêt ni l'importance, mais les faits sont là. Les effets économiques ont été quasiment nuls, en tout cas pour ce qui concerne les différents changements de classe. Donc, et je m'arrêterai ici, on peut se vivre en société comme une société d'héritiers ou pas, sans que ça ait forcément de rapport avec la vérité économique.
C'est ça parfois prolonge ce que vient de dire Sophie Galabru. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'oppose autant au droit de succession, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est tout l'héritage que ça charrie qu'on
c'est
ne veut
désir.
Pas être taxé, qu'on ne souhaite pas voir taxé. C'est ça, Michel Vivorca?
Alors, d'abord, une toute petite remarque. Ils ont lu Tocqueville, les gens qui ont fait votre étude.
Oui,
parce que l'ancien régime
et
la réalité.
Alors ça, c'est vrai. Au sein de la famille, vous voulez dire.
Mais Tocqueville n'est pas assez statistique.
Non, c'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de Tocqueville, c'est pas la peine d'étudier la Révolution si on veut voir ce qui se passe avant et après. Enfin, il y a une.
Oui, mais Tocqueville n'avait pas. Là, disons que c'était intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait une démonstration économique et qu'on voyait bien que c'était qu'on pouvait avoir des vues de l'esprit par rapport à une situation donnée.
Il y a quand même un grand changement pour rester sur la Révolution. C'est bien sûr la fin du droit d'aîné. C'est la, ce que disait d'ailleurs Tocqueville, la famille démocratique. C'est-à-dire que les enfants héritent à peu près de la même chose à partir de 1792, abolition du droit d'aîné.
Oui, et puis là, on va voir apparaître quand même des débats formidables. D'ailleurs, je trouve les débats du 19e siècle souvent plus intéressants que les débats d'aujourd'hui. Oui. Je lisais, avant de venir ici, André Masson, qui a fait un très beau livre sur la question de l'héritage. Bon, mais il rappelle le débat entre Marx et Bakounine, je crois. Mais c'est passionnant. Est-ce qu'il faut supprimer l'héritage ou pas? Marx dit, pas forcément, le problème se joue ailleurs. Bon, et l'autre dit non, il faut le supprimer tout de suite. Alors, donc, ce que je voulais revenir un tout petit peu sur des choses qui viennent d'être dites, parce que quand on parle comme on est en train de le faire, on ne donne peut-être pas assez de place à ce que des parents peuvent vouloir transmettre à leurs enfants et ce que des gens peuvent vouloir transmettre à la société. Et je pense que si on regarde les choses comme ça, Bon, on a tous appris à l'école le laboureur et ses enfants. Bon, on a
Vous pouvez nous le rappeler ?
Allons bon, travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Hein, c'est ça, c'est-à-dire, il cherche un trésor, il leur a dit qu'il y avait un trésor au fond du... en creusant, et en réalité, il les encourage à travailler la terre. Et, bon. Mais on a tous le souci d'éduquer nos enfants, de leur... Et moi, si on me dit, qu'est-ce que tu préfères, laisser de l'argent à tes enfants ou les éduquer convenablement et leur donner toutes les chances dans l'existence, je n'hésite pas une seconde. Donc, vous voyez, c'est Bourdieu que vous évoquiez aussi tout à l'heure. Donc, l'héritage, c'est quand même beaucoup plus large. Et donc, je pense que si on veut réfléchir à la façon dont des gens veulent se projeter dans l'avenir, ce qui était quand même le thème dont on parlait, il y a quand même d'autres façons que de ramener ça à « je vais leur laisser un magot » ou une entreprise, ou une maison, ou un appartement.
Si, par exemple, vous appliquiez la taxe Zuckman et que vous mettiez à contribution le patrimoine des Français qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros chaque année, ça permettrait de faire rentrer 20 milliards d'euros dans les caisses. C'est deux fois le coût de l'abrogation. Ça a été voté par les députés à l'Assemblée nationale.
La taxe Zuckman, elle a un sens si elle est mondiale. C'est pour ça que je me suis battu avec le président Lula, à l'époque le président Biden, pour la faire au niveau de l'OCDE. Est-ce que vous pensez que si la France toute seule met une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, les gens vont gentiment rester pour être taxés?
Oui.
Bah, présentez-les-moi.
Emmanuel Macron, interrogé par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, le 13 mai 2025 sur la chaîne TF1. Et j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le dur, notamment avec vous, Natacha Valla, sur ce budget 2026 qui nous a aussi donné l'idée de cette émission. Et puis, on voit bien cette taxe Zuckman. Moi qui ai suivi énormément de débats politiques et budgétaires, j'ai rarement vu une taxe, une mesure qui reste aussi longtemps accrochée dans le débat public. Est-ce que c'est comme ça chaque année? Est-ce que il se passe quelque chose de particulier cette année pour ce budget 2026, Natacha?
Ce qui se corse en 2026 et sur les années précédentes, parce qu'il n'y a rien de nouveau en réalité, c'est que dans les discussions budgétaires aujourd'hui, on accepte, il y a une acceptation un peu générale de voir qu'on fait des budgets année après année qui ne sont pas à l'équilibre. Donc, c'est très très lié à la notion d'héritage qu'on dit, au sens économique du terme, dont on parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on fait un budget qui n'est pas à l'équilibre, je ne parle même pas de ce que ça coûte de rembourser la dette passé, avec les charges d'intérêt qui constituent de plus en plus une charge importante. Mais uniquement sur l'équilibre entre les recettes et les dépenses, ce budget en négatif, il veut dire qu'on est obligé d'emprunter, donc d'émettre de l'obligation, entre parenthèses une obligation qui est une des formes de support de la richesse familiale qui peut ensuite être donnée en héritage ou non. Alors cette dette-là, qui est accumulée année après année par les votes des budgets successifs, c'est très concrètement, de façon socialisée, un héritage négatif que notre génération lègue aux générations suivantes. Et ça, c'est un fait. C'est malheureux, mais c'est un fait comptable. On n'y peut rien. Alors, on peut se dire, ben, c'est une dette qu'on ne remboursera jamais. On sollicitera la Banque centrale pour la monétiser. On peut se dire, on ne la remboursera pas. De toute façon, on ira voir les compagnies d'assurance, en particulier d'assurance vie ou autre entité qui détiennent cette dette, on leur dira au bout du compte, finalement, on vous en rembourse la moitié. La Grèce l'a fait, ça a failli faire vaciller l'euro. Donc ça fait partie des solutions qui, de mon point de vue, n'en sont pas, enfin d'un point de vue moral par rapport aux générations suivantes qui vont attendre qu'on leur rembourse quelque chose. Donc voilà, ça c'est le contexte général. Et donc ce contexte général des débats à l'Assemblée, ça tend pourquoi ? Parce que on commence à se dire, alors évidemment il y a toujours deux solutions quand on discute des questions budgétaires, soit on regarde les dépenses, on considère qu'il y en a trop, pas assez, que c'est bon, et on altère l'approche par rapport aux dépenses publiques, et puis on regarde les recettes, donc taxation, et dans l'univers des taxations, effectivement, la taxation de l'héritage, et on se dit, est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins, est-ce qu'il faut laisser ça inchangé? Donc ça fait ces six paramètres qu'il faut, enfin deux paramètres déclinés par trois chacun, sur lesquels il faut décider collectivement à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Et aujourd'hui, on se dit, on ne va pas pouvoir reculer plus longtemps à dire on fait des déficits sur cette année et les années qui suivent, parce que ça ne tient plus. Il va y avoir un point de rupture. Donc il faut s'attaquer au problème. Et pour s'attaquer au problème, c'est assez difficile d'entamer une discussion sérieuse sur le volume des dépenses et surtout la qualité des dépenses. On est encore en plein dans la question de l'héritage sur la qualité des dépenses. Et je fais référence à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que l'héritage, ça n'est pas seulement un héritage économique et financier, c'est aussi un héritage, on a du mal à retomber dans Bourdieu quand même, hein, quand on aborde ces sujets-là, mais de capital humain, de capital culturel, de capital social. Et donc tout ça, ça passe par le prisme de l'éducation. L'éducation, c'est de la dépense publique, et donc qui devrait être prioritaire à mon sens, au détriment d'autres dépenses qui devraient être réduites. Mais en tout cas, voilà, la raison pour laquelle c'est un bouc émissaire assez facile, finalement, qui dévoie de la réelle problématique budgétaire qui devrait être dans tous les esprits aujourd'hui.
La taxe Zucman, pour ajouter de la congruité à ce débat, qui a été d'abord adoptée à l'Assemblée, la même Assemblée, hein, avec l'abstention du Rassemblement National, là qui vient d'être rejetée avec le vote contre du même Rassemblement National, qui, je le rappelle, demandait de taxer à 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Mais il y a eu énormément de propositions, hein, dans ce budget, à droite et à gauche. Il y a eu ceux qui voulaient, par exemple, remettre en cause le pacte Dutreil, qui est un abattement qui permet de transmettre une entreprise à sa famille à 75%. Et il y a eu, à l'inverse, à droite, plutôt des gens qui disaient il faut pouvoir donner plus à ses enfants sans être taxé durant son vivant, exonérer encore plus les assurances-vie. Comment vous le voyez, vous, ce débat, Arthur Chevalier ?
Alors déjà, pour commencer, il y a une statistique dont on ne parle jamais et qui est tout à fait d'actualité, c'est que le nombre de refus de succession a doublé en moins de 15 ans. On n'en parle jamais. Ces statistiques ne sont pas tellement documentées. Il n'y a pas vraiment de rapports qui sont faits là-dessus, puisque contrairement à l'héritage de la dette publique, qu'on ne pourra pas refuser, on peut refuser les héritages. Donc a priori, si les gens refusent, c'est donc qu'il y a des dettes. Et évidemment, quand on refuse un patrimoine financier, on refuse tout ce qui va avec. Hein. C'est une seule et même chose. Donc on refuse la maison, les bibelots, les manuscrits, que sais-je. Ça, c'était une première chose. La deuxième, et effectivement, les débats sur ce budget, je trouvais, montraient très bien l'espèce d'aberration à laquelle on assiste, c'est-à-dire que en fait, il y a quand même un régime de faveur pour la transmission en ligne directe, d'accord, de parents à enfants. Ce qui permet au fond, je ne leur en veux pas, à des enfants de milliardaires d'être relativement peu taxés par rapport à la fortune qu'ils vont toucher. Ce qui veut dire que vous, si par exemple, Astrid, vous touchez 15 000 euros de votre marraine, qu'elle vous le donne, vous allez être infiniment plus taxé que le fils d'un milliardaire qui touchera 1 milliard d'euros. Ça n'est pas logique, vous voyez, c'est tout simplement une sorte d'aberration intellectuelle. Donc, je dirais qu'il y a ils font de la politique, c'est-à-dire que ils essayent de faire croire que d'un côté il y a la libre transmission et la liberté, et de l'autre il y a la contrainte. Mais c'est faux, c'est pas ça. Il y a des choses qui ne sont juste pas logiques et qui ne sont pas justes.
Est-ce que aussi on a peut-être empilé tout un tas de dispositifs et on n'a plus vraiment de lisibilité, Michel Divorca?
Alors, je crois que c'est vraiment une très bonne question, parce que on a le sentiment que ça part un peu dans tous les sens, ce débat, ce qui fait d'ailleurs qu'on voit des forces politiques qui votent un jour d'un côté, un jour de l'autre. Vous venez de donner l'exemple du Rassemblement National.
Des alliances un peu baroques aussi.
Exactement. Donc, on sent très bien que il y a, comment dirais-je, de l'agitation, comme ça, un peu corpusculaire, je sais pas comment dire, et que, derrière tout ça, il y a aussi des jeux tout simplement politicien, assez mauvais sens du mot. Enfin, on sent très bien que les gens se positionnent par rapport à des élections à venir et des choses comme ça. Bon, donc ça, c'est très clair. Mais est-ce qu'on peut trouver des axes forts qui structurent ce débat? Ça, je trouverais ça passionnant. Moi, j'en vois au moins deux qui sont très clairs. Il y a premièrement ceux qui parlent de justice sociale contre ceux qui parlent de deux choses, liberté individuelle et famille. Et c'est parfois assez contradictoire tout ça. Parce que si vous êtes dans la liberté individuelle, vous raisonnez en termes d'individualisme. Je fais ce que je veux de mon argent. Si vous raisonnez en termes de famille, vous raisonnez en termes de continuité, ce qui vient d'être dit. Donc ça, c'est une première tension. Et puis, il y a aussi une tension entre investir pour l'avenir ou reproduire. Et je pense que ça fait vraiment partie du problème. Qu'on est dans une société qui vieillit. On est une société où le patrimoine devient de plus en plus considérable par rapport au produit intérieur brut. Et dans tout ça, je trouve que ces questions d'héritage, de transmission, etc., devraient être davantage ramenées à l'investissement dans l'avenir. Je sais pas, on nous dit le musée du Louvre est archaïque, les voies de la SNCF sont insuffisamment entretenues. Enfin, tout notre pays est vieux dans ses infrastructures et c'est un pays qui vieillit démographiquement. Et donc, est-ce qu'on est du côté de, il faut investir, donc prenons l'argent de l'héritage sous une forme ou sous une autre, ou est-ce que on est dans une société qui dit non, justice sociale, qui n'est pas la même chose? Sauf à montrer que la justice sociale permet plus d'investissement, ou continuité familiale. Alors ça, d'ailleurs, je trouve ça assez cocasse. Juste un mot, je suis peut-être un peu trop long. Mais
non, allez-y, on a le temps dans cette émission, Michel Duvarcat.
Juste un mot sur l'idée qu'il faut sauver la famille, ça continue. l'héritage se fait en moyenne, pour ceux qui héritent, à 60 ans, un tout petit peu moins.
Alors, c'est la grande différence avec le 19e siècle.
Exactement. Et donc, si vous voulez, dire que c'est bon pour, comment dire, pour la famille, pour sa santé, etc., ça me semble un peu...
D'ailleurs, l'auteur que vous citiez tout à l'heure, enfin, le directeur de recherche au CNRS, André Masson, avec son livre « L'héritage au XXIe siècle », parle de gérontocratie patrimoniale française, pour expliquer le fait qu'on hérite, quand on est vieux, finalement, Sophie Galabru. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire par Arthur Chevalier, c'est-à-dire le fait que on est encore dans cette façon de voir la famille, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces liens-là, de la descendance, les parents et les enfants. Mais c'est vrai que, par exemple, les frères et sœurs, si on veut hériter, on est beaucoup plus taxé. Mais à un point, cet abattement de 100 000 euros qui existe pour les successions de parents à enfants n'existe absolument pas pour d'autres liens.
Oui, c'est vrai. Pour revenir sur ce qu'a dit Michel Vivorca sur l'opposition liberté-justice sociale, moi, je crois que on peut respecter la liberté de vouloir thésauriser, transmettre et protéger. Parce que moi, je considère quand même, contrairement à ce que vous avez dit, que l'argent n'est pas que de l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent pour protéger sa progéniture, c'est pas incompatible avec le fait de lui donner, d'avoir une stratégie éducative et des valeurs sur le long terme pour protéger, élever cet enfant. Et l'argent peut vouloir dire, je cherche à te protéger. D'ailleurs, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se contrefichent de protéger leur enfant, qui ne cherchent à rien faire comme stratégie financière pour eux. Donc en fait, ça veut dire quand même quelque chose de faire attention à préserver son argent, faire des sacrifices pour des familles modestes, pour leur laisser quelque chose. Donc moi, je trouve que c'est important de respecter cette liberté. Mais en même temps, c'est vrai, la justice sociale et l'équité est importante. Parce que comme l'a dit Arthur Chevalier, quand on entend que finalement des foyers modestes ou un peu riches sont beaucoup plus taxés parce qu'ils ont moins de liquidités, moins d'assurance vie, juste une maison de famille, que des ultra riches qui échappent finalement 45% d'imposition, ça tourne plutôt autour de 10%, il y a un vrai problème d'équité. Et effectivement, ce qui peut déprimer les gens, c'est qu'ils ont une maison de famille ou des objets de valeur. Et en fait, parfois, vous pouvez très bien travailler, être travailleur laborieux, et puis vous ne pouvez pas payer les frais de succession d'une simple maison de famille. Et je comprends l'arrachement affectif et symbolique que ça représente pour les gens. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, parce qu'encore une fois, le bien ou le matériel ne se réduit pas à ça. Il a une dimension symbolique. Et pour finir, là où je suis d'accord avec Michel Vivorca, c'est que le problème autour de l'héritage, c'est que maintenant, il sert les sexagénaires et non plus les trentenaires, comme c'était le cas peut-être dans les années 80. Et en fait, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de se demander comment on peut revitaliser la jeunesse, les investissements. Est-ce qu'il ne faut pas trouver des mécanismes pour favoriser même des donations anticipées avant un certain âge, pour que ce soit des vingtenaires ou des trentenaires qui puissent accéder à la propriété, investir dans des entreprises? C'est ça qui est intéressant. De même qu'on parlera peut-être de ça plus tard, mais il y a le problème du genre dans l'héritage.
Non, allez-y,
puisque les femmes sont encore, selon une belle étude qui s'appelle Le genre du capital, qui est paru en 2023, en fait, pour plein de raisons, et c'est pas toujours conscient, intentionnel, mais les femmes, les sœurs, sont moins les destinataires de l'héritage, ou peuvent moins justement le payer, payer ses impôts, parce qu'elles ont des salaires plus bas, des carrières fragmentées. Et donc là aussi, il y a peut-être un mécanisme d'équité, de justice sociale à penser pour les femmes et pour les jeunes, je trouve aussi.
Il faut tout revoir, Arthur Chevalier.
Oui, surtout qu'en plus, qu'on soit clair, les droits de succession, ça a été inventé en 1791, sous la Révolution française, et le truc était très clair. C'est une mesure de répartition des richesses. C'est tout. Ça a été voulu, pensé comme ça.
Et ça ne l'est plus aujourd'hui.
Bah, ça ne peut, dans les faits, ça ne l'est absolument plus, parce que, et pour rebondir sur ce que vous disiez, Sophie Galabru, la vérité, c'est que cet héritage, à quoi il sert aux gens qui ont 30 ans aujourd'hui, à être des aventuriers? Les vraies personnes qui peuvent prendre des risques aujourd'hui, ce sont ceux qui héritent. Ce sont les personnes qui ont un appartement de famille, soit gratuitement, soit pour lequel ils payent un loyer modique. Et moi, je me rends compte, par exemple, dans mon métier d'éditeur, que les personnes qui peuvent se permettre de plus en plus d'écrire et de tenter la vie de l'aventure intellectuelle, quand on assiste au délabrement de l'université, à l'effondrement des budgets, ce sont des personnes qui ont tout simplement un background familial, capital financier bien sûr, mais pas seulement, capital symbolique, des relations, du réseau, et ça compte aussi.
Michel Vivorca voulait réagir d'un mot à ce que vient de nous dire Arthur Chevalier.
Oui, je sors d'une expérience d'écriture sur les start-up. Et justement, oui, c'est un monde qui n'est pas dans l'héritage, en tout cas matériel. Ce sont des jeunes qui ont une idée, qui parfois même interrompent leurs études, et qui veulent absolument, alors, gagner de l'argent à partir de leur idée, répondre à un besoin, mais qui partent sans héritage. Et donc, c'est un monde intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que dans notre pays, ça passe pas toujours très très bien. C'est vrai ce que vous dites. Enfin, là, je vous suivrai assez. On réfléchit plutôt comme vous l'avez dit.
Et j'ajoute très rapidement sur les startups que si vous regardez les startups qui ont cartonné en France, quand vous regardez la généalogie des fondateurs en général, vous voyez bien qu'il y en a certains qui ont moins de mal que d'autres à trouver des investisseurs. Logique, mais réel.
Parce que, allez-y Natacha Valla.
Alors en France peut-être, mais enfin aux États-Unis, il y a quand même de très belles études qui montrent que cette capacité à innover, à créer à partir de la start-up et à accumuler finalement suffisamment de capital pour faire croître cette activité productive économique, elle est quand même un facteur, pour le coup, de cette mobilité sociale et économique qu'on a perdue, pour d'autres raisons, sur notre continent. Non, si je peux compléter ce qui a été dit et revenir à la question de la taxe Zuckerman, qui a pris tellement d'ampleur, et elle mérite pas ça, cette taxe Zuckerman. Le problème de cette taxe, c'est qu'elle mettait dans le périmètre des instruments de production qui mettait au travail du capital qui, par ailleurs... voilà. Et donc ça, c'est une très mauvaise idée.
Le fameux exemple, Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, une entreprise d'intelligence artificielle.
Devenu un peu emblématique. Ouais. Et il faut revenir sur les objectifs de la taxe, de l'impôt. Et en réalité, les objectifs de l'impôt, il y a certes, et c'est un objectif premier, cette équité horizontale, le fait qu'on puisse partir tous à la naissance avec les mêmes chances, c'est un objectif tout à fait louable. Mais il y a aussi la question de l'efficacité alors économique, éviter la concentration du capital improductif. Et là, il faut faire la part des choses entre, justement, l'accumulation, l'empilement d'appartements qui produisent pas grand-chose, et la mise au travail du capital dans des activités risquées, effectivement, parce qu'il n'y a pas de croissance sans risque, c'est quelque chose. Il y a aussi la question du rendement budgétaire. On l'a pas tellement évoqué. Alors, franchement, il faut regarder les grandes masses, les droits liés à l'héritage et à la transmission. Ça représente vraiment pas grand-chose par rapport à l'éventail fiscal de l'ensemble des revenus du secteur public, qu'il soit au niveau de l'État central ou des collectivités locales. Donc, on a amplifié quand même un élément de la fiscalité qui, dans les faits, représente, allez, grand max, alors plus en France qu'au Royaume-Uni, mais un demi-point de PIB, un point de PIB si on va loin. Alors, le Japon, ça va beaucoup plus loin. C'est une exception. Mais en tout cas, voilà, on dévoie beaucoup d'énergie sur des questions centrées sur la fiscalité qui sont beaucoup plus rentables pour ensuite, si on le souhaite, faire de la redistribution par le biais du bilan de l'État. Et je terminerai quand même aussi, parce que c'est lié à ce qu'on dit, c'est que dans la fiscalité, l'idée de l'impôt, c'est d'avoir une incitation comportementale. Alors, j'ai incité à ne pas accumuler des lingots d'or dans son jardin, mais à monter sa boîte pour faire vivre les territoires. Voilà. Ces incitations-là, je pense il faut qu'on développe cette dimension de réflexion, y compris pour ne pas tomber dans des débats un peu trop d'opposition et stériles, finalement.
On va en parler tout de suite de fiscalité.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
Nous sommes toujours en compagnie de Michel Vivorca, sociologue, Natacha Valla, économiste, Sophie Galabru, professeur de philosophie, Arthur Chevalier, auteur, éditeur et chroniqueur. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup ces histoires de fiscalité parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage. C'est-à-dire que quand on lit les économistes, la littérature sur le sujet, ça semble pas non plus très révolutionnaire. On demande de taxer les 1% les plus riches, voire parfois les 0,1% les plus riches, ce qui rapporterait beaucoup d'argent et qui, c'est toujours l'argument qui revient, ne dérangerait pas du tout les 99% d'autres Français. Alors, que pensez-vous de ces travaux-là, de ces initiatives-là? Et surtout, pour ajouter aussi à notre débat, toutes ces tribunes qu'on voit fleurir un peu partout, aux États-Unis, en Allemagne, ici en France, de ces entrepreneurs, de ces milliardaires qui nous disent « taxez-nous, s'il vous plaît, taxez-nous ». Comment le comprendre, Natacha Valla? Il y a un problème de communication entre ceux qui prennent les lois et ceux qui demandent à être taxés, ou c'est pas représentatif?
C'est une bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. Mais moi, ce que ça m'évoque, cette question-là, c'est ce qui a été soulevé sur la question du vieillissement tout à l'heure et du fait que finalement, on a la problématique se transforme parce que on a finalement plus de transmission de son vivant en bonne santé ou en état d'entreprendre des choses ou en état de faire d'en faire quelque chose. Et finalement, il y a une discussion sur les transmissions de son vivant, les donations en dehors de la famille, la philanthropie. On se rend compte aujourd'hui, moi je suis très mobilisée dans mon temps libre pour le soutien à la musique classique en particulier. C'est hyper compliqué aujourd'hui, dans l'assèchement des budgets publics, de mobiliser des familles, des entreprises autour de valeurs, d'une culture, d'un environnement qu'on souhaiterait vouloir transmettre aux générations suivantes, alors que l'État n'est plus tellement en mesure de le faire. Or, le cadre fiscal, alors il est bien meilleur qu'il y a 30 ans, mais permet pas encore tout à fait de prendre aux entreprises et aux familles qui ont les moyens de le faire, d'aller dire, ben voilà, moi je vais soutenir telle et telle action, je vais soutenir tel ensemble des arts vivants et de finalement, ce faisant, par le biais de la famille ou par le biais d'un intérêt général qui s'exprimerait au-delà même de la famille, on manque d'outils. Et je pense que d'autres pays, d'autres sociétés savent beaucoup mieux le faire que nous.
Sophie Galabru.
Oui, ça me fait penser au fait que je crois que c'est le sénateur Alexandre Ouzil qui proposait de décharger certains salaires de la CSG et que cela soit financé par vraiment des grandes fortunes ou des ultra-riches. Je trouve que ce principe-là de vaste communicant, très ciblé, très clair, est intéressant parce que ça permettrait de redonner du pouvoir d'achat, peut-être de pousser des plus jeunes à investir, à avoir envie de travailler, d'investir. Voilà, dans ce sens-là, parce que c'est vrai que là, le travail, je reviens là-dessus, mais ne paye plus assez et freine, je trouve, les générations les plus jeunes qui, en plus, vont supporter le poids de la dette et supportent encore largement le poids des pensions. Parce que comme on voit que, finalement, c'est surtout les quinquas et les sexagénaires qui héritent, qui, en plus, ont bénéficié de conditions de vie socio-économiques bien plus favorable que la génération des 20 ans, 30 ans aujourd'hui, pourquoi faire peser aussi lourdement le poids des pensions sur ces jeunes actifs? Et d'autant plus qu'on voit que l'héritage donc revient beaucoup aux seniors.
Arthur Chevalier.
Il faut dire ce qui est, la frivolité avec laquelle ce sujet est traité de la part de nos gouvernants en général va avoir des conséquences politiques très graves. Il y a une guerre générationnelle qui s'opère en France, elle est réelle. Je veux dire, il y a une génération à la conviction que les plus de 60 ans ont tout eu et que eux n'ont droit à rien, que les salaires sont plus bas, que les loyers sont plus chers et qu'en plus de ça, la fiscalité ne les sert pas. D'accord? Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la famille, ça c'est très intéressant. Il y a une sorte de vie propre à la famille maintenant qui se passe. Les transmissions, les donations. On entend de plus régulièrement de gens de 40 ans qui disent « Non mais quand je pense que je vois mes parents qui ont 500 000 euros sur leur compte en banque, ils pourraient nous le donner mais ils ne donnent pas parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de la suite. » Donc ce que je veux dire c'est qu'en fait l'État est tellement désengagé entre guillemets sur les problèmes de répartition réels qu'en fait le vrai sujet devient maintenant qu'est-ce que nous donnent nos parents et nos grands-parents et comment est-ce que je peux prendre 100 000 ou 200 000 euros ou 50 000 ou 20 000 de mes parents ou mes grands-parents pour améliorer ma propre vie. Donc en fait, nos parents et nos grands-parents deviennent notre État et notre protecteur.
En sachant quand même, hein, un chiffre important dans ce débat, qu'un Français sur deux n'hérite de rien. Absolument. Du tout dans sa vie et que la plupart des héritages sont autour de 30 000 euros. Michel Vivorca.
Enfin, deux remarques, la discussion prend différentes directions, mais deux remarques. Tout à fait sensible au thème du conflit de génération qui monte. Et moi, je l'ai vu monter avec le Covid. Et je pense d'ailleurs que cette discussion sur l'héritage a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le Covid. Et en tout cas, conflit de génération pendant le Covid, je l'ai vu de deux façons différentes. La première, c'est un débat un peu abstrait sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un seul lit d'hôpital pour accueillir deux personnes en urgence. Et la réponse était, bah, il faudrait quand même donner priorité à problème médical égal aux plus jeunes. Donc là, c'était plutôt... donner de la priorité aux plus jeunes. Et puis l'autre grand débat, alors beaucoup plus lourd et beaucoup plus réel, c'est est-ce que la politique du gouvernement n'a pas été de dire on sauve les vieux au détriment des jeunes, c'est-à-dire on met en place des mesures qui vont...
Contre notre liberté pour les sauver.
Exactement. Et donc le conflit de génération, moi je le vois commencer à se cristalliser comme ça. Et donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui me semble très, très importante, qui était un peu dans ce que vous disiez, c'est qui décide, si on pense en termes d'intérêt général, qui décide de l'affectation de l'impôt? Normalement, l'impôt ne l'affecte pas. Enfin, à part la vignette dans le temps. Mais qui décide de l'affectation de l'impôt ou plutôt des ressources qui peuvent provenir de l'héritage? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la société? Mais qui dans la société? Des gens ont dit, ça devrait être... Durkheim disait, c'est grosso modo les organisations professionnelles. Aujourd'hui, on dirait les syndicats. D'autres diraient, c'est des... le modèle que vous présentiez de
Natacha Valla.
Natacha, le modèle de la philanthropie, etc. Oui. C'est un modèle, c'est encore un autre modèle. C'est ni l'État, ni la famille. Bon, qui décide de ce que l'on fait de cet argent? C'est quand même aussi des grandes questions. Donc, vous voyez, on tire toutes sortes de fils dès qu'on parle de l'héritage.
On est encore un peu prisonnier des vieux schémas, vous diriez, Sophie Galabru, pour aller dans le sens de ce que vient de nous livrer Michel Vivorca?
En tout cas, je trouve ça intéressant. C'est vrai, le principe, l'origine de la philanthropie est de pouvoir avoir envie de dédier son argent volontairement à des causes importantes, culturelles, médicales, scientifiques, d'éducation. C'est vrai j'ai pas l'impression qu'on soit en France dans cette dynamique-là, alors que ce serait intéressant. Peut-être que ça favoriserait le comportement des gens s'ils pouvaient davantage. Là-dessus, je vous laisse me dire, mais économiquement, est-ce qu'il y a un intérêt à donner, à transmettre son argent à des fondations, à des ONG, à des causes en France, je ne sais pas quel est l'impôt
d'imposition.
Alors aujourd'hui, on a des cadres. Alors, il existe un instrument qui s'appelle le fonds de dotation. Il y a la fondation et le fonds de dotation qui permettent de faire, grosso modo, il y a des variantes, mais de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66%, je crois. Enfin, en gros, deux tiers. Ce qui est pas mal. On peut aller un peu plus loin. Enfin, je pense qu'il y aurait sans doute, en fonction des préférences collectives, en réalité, hein, si on énonce des préférences collectives sur l'éducation, sur la culture, sur la santé, je pense qu'on pourrait, en fait, décliner ces préférences collectives en jeu d'incitation individuelle qui permettrait justement d'aller surfinancer ces préférences collectives qui peuvent moins l'être aujourd'hui dans le cadre de processus budgétaires qui sont un peu noyés sous la vague.
Je suis complètement d'accord, d'autant qu'il y a peut-être ce qui explique aussi parfois le refus de l'imposition, c'est où passe l'argent, parce qu'il y a quand même 13 milliards de recettes, j'ai pu lire en 2023 grâce à l'héritage, mais qu'en fait l'État, puisqu'on voit que les services publics, il manque des lits d'hôpitaux, l'éducation n'est plus assurée complètement, donc je comprends la question des gens qui se demandent comment est utilisé cet argent, est-ce qu'il n'y a pas un gaspillage, comment il est distribué, utilisé, c'est une vraie question. Quant à savoir si la famille est une institution poussiéreuse qui ne devrait pas porter la question de l'héritage, je ne suis pas d'accord, parce que Durkheim pensait, je trouve très naïvement, qu'en effet c'était les corporations professionnelles qui pouvaient être désormais les destinataires des héritages, mais je pense que c'est d'une naïveté confondante, parce que les gens ont toujours, il y aura toujours des gens, il y a des gens qui n'ont plus envie d'enfants, qui n'ont plus envie de former des familles, mais il y a toujours des gens qui ont envie d'accueillir des enfants et qui auront envie, pour des raisons psychologiques, symboliques, de leur léguer quelque chose. Donc évidemment,
sans dire que la famille est archaïque, c'est peut-être les dispositifs qui la régissent qui sont, eux, archaïques.
En revanche, comme vous l'aviez dit, c'est vrai que pourquoi la donation entre frères et sœurs serait plus taxée qu'entre parents et enfants.
Oui, Arthur Chevalier.
Pour prolonger ce que vous venez de dire très justement, il y a un très bon historien qui s'appelle Thierry Dutour et qui avait très bien montré ça dans un bon livre sur la nation française. En fait, on a décliné le modèle pyramidal patriarcal, j'emploie ce mot de façon détendue, hein, je ne vois pas un concept derrière, mais pyramidal patriarcal dans tous les domaines, l'éducation et la fiscalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit qu'entre un père et un fils, on ne devrait pas taxer beaucoup l'héritage parce que ça semble être la chose la plus naturelle du monde. Donc, c'est une vision de la famille qui tente à penser que elle nous est imposée et qu'il est normal que papa soit le privilégié sur mes frères et sœurs. Alors que dans nos familles, c'est vrai, il y a des gens qu'on préfère et qui ne sont pas forcément nos parents. On se choisit des parents d'adoption. Et pourquoi est-ce que nos parents d'adoption, avec qui on a un lien affectif, ne voudraient pas nous transmettre de l'argent? Et pourquoi est-ce que ces gens-là n'auraient pas le droit de lever une option d'exonération fiscale en disant, voilà, lui, je l'adore, je veux que pouvoir lui donner de l'argent. Enfin, après tout, c'est une lecture de la vie qui correspond beaucoup plus aux affects qu'une lecture un peu archaïque et en fait fautive des rapports humains.
Et on arrive tranquillement à la question de déshériter ses enfants, ce qui est totalement interdit en France. Il y a une réserve, on peut leur enlever un petit peu de patrimoine, mais enfin, le gros du patrimoine ou de l'héritage, il est là. Michel Vivorca.
On peut les déshériter en claquant tout.
Vous y avez pensé?
Non, mais je
plaisante.
J'ai connu un richissime brésilien, c'est ce qu'il a fait, il a tout claqué. Il s'en est vanté. Bon. Mais sinon, sur le fond, je trouve que ce dont on parle maintenant, ça renvoie quand même non seulement à la crise de l'État, et à sa critique de l'État, mais à la crise des élites et à la crise des politiques. Pourquoi ce débat prend une telle vitalité, un tel dynamisme? C'est aussi parce que on a le sentiment que les gens qui pilotent la politique sont pas à la hauteur. Ne prennent pas les bonnes décisions, ne mettent pas en forme le débat comme il devrait se mettre en place. Et puis alors, je suis tout à fait d'accord, par ailleurs, avec ce que vous dites sur, j'ai envie de dire, la crise aussi du modèle culturel. On est en train de vivre un changement de modèle culturel. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça nous tire plutôt vers l'arrière, je trouve. C'est assez régressif, le côté vieux, le côté même archaïque. Et c'est là où je résiste un peu à ce que vous dites. Je trouve que dans ce que vous dites, il y a l'idée qu'on peut encore résoudre la quadrature du cercle, qu'on peut encore vivre toutes ces tensions entre justice sociale, famille, investissement, etc., qu'on peut encore trouver des solutions. Moi, je pense qu'on est en train de vivre des moments d'énormes tensions et que ce qui se joue dans le débat parlementaire, qui est assez médiocre, on en est. Enfin, mais ça nous indique ça, c'est la tension d'un modèle qui ne tient plus. Alors vers quoi on ira, je ne sais pas, mais c'est ça moi que je ressens.
D'un mot, Natacha Pala.
Pour terminer peut-être sur un... Ça occulte aussi certains faits, en fait, une lecture un peu factuelle de la façon dont l'économie est capable de produire des richesses. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, elles sont familiales. On prend les PME, il n'y a pas seulement les toutes grandes, il y a tous les outils qui sont très locaux, très petits. Donc, une grande partie des richesses vient des entreprises familiales. Ces entreprises familiales, elles sont caractérisées par une vision de long terme. Donc c'est quand même plutôt bon pour l'économie de pas aller faire de la spéculation à droite à gauche à des visées de court terme. Et c'est des entités qui sont un peu plus frileuses, effectivement, qui prennent moins de risques parce qu'il y a cette perspective de long terme. Donc il faut connaître aussi la façon dont les richesses se produisent et voir en quoi le débat peut s'articuler avec ça.
Pour aller dans votre sens, je vous donne la parole tout de suite à Arthur Chevalier. Ce qui était intéressant de noter aussi, c'est que le fameux pacte du trade dont on parlait pour transmettre, vous alliez y venir.
C'était exactement ce que je voulais dire.
Moi, je voulais dire, n'intégrait pas le foncier agricole. Et c'est pour ça que la crise agricole de 2024 a aussi donné lieu à de nouvelles lois pour pouvoir transmettre une ferme. Allez-y.
Bien sûr, ce pacte du trade, déjà, en soi, est très contestable, puisque dans les faits, il permet à des entreprises, mais donc aussi à des gens qui ont beaucoup d'argent, de mettre dans leur patrimoine d'entreprise des bateaux, des voitures, des châteaux, des maisons, véritablement. C'est Oxfam a fait un rapport là-dessus qui est formidable. Donc déjà, en soi, c'est un cheval de Troie d'exonération fiscale pour l'héritage. Et effectivement, il ne concernait pas cette question agricole dont vous parlez, qui, elle, pour le coup, concerne directement les gens qui souffrent économiquement pour de vrai et qui, eux, payent très cher.
Seul héritier d'une des plus grosses fortunes d'Europe, Bart Cordell possède tous les attributs de la star. Enfin, de l'homme public d'aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'il est un playboy... Une tête brûlée. Son père, qui ne pouvait pas s'entendre avec lui, l'avait éloigné aux États-Unis. Mais le fond de la querelle n'est pas là. Si Cordell s'est fâché avec son père, c'est parce qu'il a épousé la fille Galazzi, le magnat de l'acier italien. Galazzi, c'est l'homme qui monte dans la nouvelle droite italienne.
Régie finale, monsieur Carnavant.
J'emmerde la régie finale. Ses amis disent que Bart Cordell est un gagnant, un battant, un fonceur. D'ailleurs, malgré leur querelle, son père l'a placé à la tête de tous ses intérêts pour toute l'Amérique du Nord. Il paraît qu'il a été un joueur de rugby féroce au Racing. Puis l'affaire d'Algérie, c'est ça le truc. Il était lieutenant et il a eu une sale histoire avec un colonel qui faisait un peu trop joujou avec les Felagar. Je crois que ça s'est terminé en conseil de guerre.
Super bonne, quoi.
Enfin, n'exagérons rien, mais peut-être superstar un jour. En tout cas, c'est de la bonne matière pour l'émission, ça.
Et en plus, il a une belle gueule.
Ah, ça, hein ?
Un extrait du film L'Héritier de Philippe Labro en mars 1973 avec Jean-Paul Belmondo. Et j'aimerais qu'on conclue cette émission ensemble sur peut-être... On en a un peu parlé déjà, mais que nous dit aussi l'héritage familial ? Est-ce qu'on peut s'en affranchir ? Est-ce qu'on doit s'en affranchir ? Est-ce que c'est parfois un fardeau aussi ? Est-ce que c'est un cadeau ? Et une dernière petite information, quelques chiffres, parce que je trouve que c'est important d'en parler dans ce débat, c'est les jeux de hasard et d'argent, le loto. Est-ce que, selon vous, c'est aussi une façon de penser qu'on va hériter, ce que vous nous disiez, Arthur Chevalier, en introduction, c'est-à-dire d'imaginer qu'à nous aussi, ça, le trésor va nous tomber dessus. Quelques chiffres, un Français sur deux a joué à un jeu d'argent et de hasard en 2023. La plupart des jeux d'argent et de hasard sont en hausse en 2024. Et la dépense annuelle moyenne par adulte de personnes qui jouent, c'est 300 euros quasiment, hein, 258. Natacha Vallard ?
Alors ça, c'est l'exemple type de l'irrationalité en comportement économique où on mise sur des probabilités qui sont tellement incroyablement infimes que finalement, ça permet de faire rêver tout en acceptant une réalité matérielle et quotidienne qui n'est pas forcément... Donc, c'est un réel impôt, hein, le jeu. Il faut quand même l'accepter et se soumettre volontairement à l'impôt. Ça se porte un peu en faux par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant.
Arthur Chevalier.
Je voudrais vous parler de Molière. Parce que, et ça correspond à la question que vous venez de poser, Astrid, Molière, c'est la monstration littéraire, on va dire ça comme ça, la mise en scène littéraire d'une société d'héritiers qui est en train de craquer. Puisqu'en fait, toutes les pièces de Molière, c'est un monde Molière, toutes les pièces de Molière mettent en scène des jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, qui veulent avoir leur propre vie et des parents qui leur disent, d'une part, tu n'auras pas ta propre vie, et deuxièmement, si tu veux l'avoir, tu vas le payer très cher parce que je ne te donnerai rien. C'est le sujet de l'avare, c'est le sujet du mal imaginaire, on peut décliner à l'envie. C'est intéressant parce que ça montre un monde où les individus n'avait pas d'avenir en tant que tel. Il était inconcevable, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, que des enfants aient le droit de faire autre chose que de porter le nom de leurs parents. Voilà. Et leur seul but dans la vie, c'est de continuer l'aventure de leurs parents. Poursuis mon nom, poursuis mon aventure. Et comme nous le savons, au XVIIIe siècle, l'aventure individuelle, elle, va arriver. Le droit, enfin, l'envie au bonheur, l'envie à la réalisation personnelle, tout ça va faire une nouvelle société. Mais je trouve que Molière est intéressant pour ça parce que c'est un témoignage littéraire, culturel, d'une société d'héritiers qui croyait la chose évidente et qui était en train justement de craquer. Voilà.
Sophie Galabru, la question de l'héritage du nom.
Ouais.
Elle est difficile aussi.
Oui, mais en fait, pas tant que ça. Je pense que ce qui est difficile, c'est quand on a au-dessus de sa tête quelqu'un, par exemple, qui a pu, je sais pas, fonder une entreprise, un empire entrepreneurial, ça, ou qui a très bien réussi dans la vie. Ça peut être de toute façon impressionnant et difficile à vivre. Bon, le nom public, ça rajoute une dimension parce que les gens vous identifient un peu plus ou ce qu'ont fait vos aïeux. Mais en fait, après tout, moi, je crois que c'est pas très spécifique comme problématique. Ce qui est pas facile, c'est d'hériter de quelqu'un qui a pu tracer sa vie, prendre sa place dans la société, construire quelque chose d'important. Et ça peut être écrasant. Ça peut être un fardeau. Et ça, mais ça implique d'autant plus d'essayer de trouver sa place, moi, je crois. En tout cas, moi, je me le suis posé comme ça, la problématique. C'est-à-dire tracer ma voie en n'étant pas complètement déterminé par un univers culturel et familial. Mais après, on s'oppose. On s'oppose en s'opposant.
Pour nos auditeurs, et puisque c'est public, ouais. Et vous en parlez très ouais. aisément, vous êtes la petite fille de Michel ouais. Galabru, l'immense acteur. Ouais. On vient d'entendre un extrait de film. Et vous dites aussi que parfois, la philosophie, vous y êtes allé aussi pour tracer votre route, comme vous venez de nous l'expliquer.
Oui, mais en même temps, enfin, l'héritage, c'est vrai, on est dans une tradition, surtout depuis les Lumières, individualiste, où on essaie de s'affranchir du poids des déterminismes sociaux, familiaux. Et en même temps, ce qu'on reçoit permet aussi de se déterminer parfois contre. Donc, moi, je crois de plus en plus qu'il vaut mieux recevoir quelque chose quitte à vouloir le contrecarrer, se déterminer contre, que de ne rien recevoir ou avoir la prétention de penser qu'on est un atome sorti de nulle part. Donc, c'est compliqué parce que, en fait, je crois pas qu'on puisse fuir complètement son héritage. Qu'on l'accepte bien volontiers ou qu'on se détermine contre, il est fondamental, mais après tout, voilà, on a besoin de certaines déterminations pour se construire. C'est un fait, même, je dirais, psychologique.
Michel Vivorca.
Bah, moi, je pense que on peut dire deux choses contradictoires de l'héritage. Dans certains cas, c'est la reproduction. Donc ça, c'est la catastrophe, pour moi. C'est-à-dire, la continuité, c'est l'identique. Et dans d'autres cas, l'héritage, il est là pour vous permettre, à vous ou à d'autres, enfin ceux qui en bénéficieront, directement ou indirectement, de se construire comme sujet. Autrement dit, si l'héritage, c'est la capacité de faire quelque chose de sa propre existence, c'est formidable. Si l'héritage, c'est être la même chose en moins bien ou en pire, voilà, donc ce serait ça ma vision des choses.
Pourquoi c'est la catastrophe, la reproduction ?
Mais parce qu'on a besoin de s'individuer. Le principe d'individuation est fondamental et il y a des parents d'ailleurs qui refusent que leurs enfants s'individuent par rapport à eux, c'est-à-dire une autre trajectoire, d'autres valeurs, les critiquent un peu même dans leur stratégie éducative. Et pourtant, c'est essentiel pour forger son chemin, se construire. Donc le principe individuel, sans oublier quand même qu'on est le fruit de détermination aussi. Mais je crois quand même, malgré toute ma connaissance de la sociologie, de la psychanalyse, je crois quand même un peu à la liberté individuelle et à la volonté. Mais cette volonté d'individuation, elle doit combattre et elle passe par la trahison aussi parfois de sa famille.
Oui, Arthur Chevalier.
Je crois quand même qu'en dépit des réalités économiques au fil de l'histoire, le projet de l'autonomie pour un individu, le rêve de l'autonomie, le fait qu'on a le droit de réaliser sa propre personne, de devenir qui on est une des plus belles idées qui ait été portée et je trouve abominable qu'on ait pu trouver ou qu'on trouve normal dans des sociétés de voler la vie de personnes qui la commencent. C'est-à-dire de leur dire ta vie tu ne la vivras pas par toi, tu la vivras par mes désirs, par ton héritage et tu devras, abstraire une partie de ta vie de 50% que tu devras dédier à ton passé. Je trouve que c'est une idée non pas réactionnaire mais abominable.
D'un mot, Michel Vivorca.
Oui, mais c'est le fait d'une société de vieux. C'est société qui vieillit et qui ne voit pas que, au contraire, l'avenir d'une société, il est dans la capacité de chacun de la construire et de se construire.
Pour moi, le réel enjeu, c'est d'apprendre, dans la mesure où, en plus, on a des vies de plus en plus longues et de plus en plus longues en bonne santé, c'est apprendre à se renouveler soi-même dans cette trajectoire-là. Que la majorité de la population française, qui sera quand même âgée, et on connaît les tendances, soit elle-même un vecteur d'innovation, de rupture. vis-à-vis d'elle-même, c'est très compliqué, c'est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais c'est un point de réflexion essentiel.
Donc si j'ai bien compris nos échanges, une société d'héritiers, c'est pas qu'elle est souhaitable, c'est qu'elle existe, elle est comme ça.
Oui, mais ce que j'ai trouvé beau dans ce qu'a dit Michel Vivorca, c'est que si c'est un héritage qui permet de s'individuer, d'investir, de tenter des aventures, c'est formidable. Si c'est uniquement être assujetti à l'autorité, c'est un fardeau horrible.
Et si ça respecte l'égalité, l'équité et la promesse républicaine d'ascenseur social.
Oui.
Allez, on passe à vos coups de cœur. Merci à tous les quatre d'avoir été présents pour ce beau sujet dans l'esprit public. Natacha Valla, vous avez une recommandation pour nos auditeurs, nos auditrices. C'est pas obligatoire, hein, faut pas se forcer.
J'en ai une avec beaucoup de conviction cette semaine. C'est même une recommandation double. Ce sont les deux ouvrages publiés par Benjamin Védrine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Benjamin Védrine, c'est un de nos grands alpiniste très jeune qui vient de réaliser avec son compagnon de cordée l'ascension du Janu-Est dans l'Himalaya. C'était un des sommets encore vierges. Il fait ça dans un style alpin très léger. C'est très très beau et je trouve que ses contributions écrites, associées à des photos très 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 dans l'esprit du temps, qui montrent la réalité de ce que c'est que de préparer un projet comme celui-ci, les échecs, les doutes, la construction individuelle. Il revient sur sa trajectoire depuis tout petit et tout ce qu'il a poussé à aimer la montagne et à se dépasser dans ces performances-là. Je trouve que c'est un magnifique message pour toutes les générations aujourd'hui.
L'Himalaya, c'était comme ça que François Bayrou parlait de la montagne de la dette. Allez-y, Arthur Chevalier.
C'est un livre qui en plus est pertinent par rapport à notre sujet, qui s'appelle L'ivresse des sommets de Harald Janer, qui est un écrivain allemand. C'est traduit chez Actes Sud, ça vient de sortir. Et c'est une nouvelle histoire de l'Allemagne de Weimar. Et c'est un très beau livre puisque ça montre que Weimar, donc ce qui a précédé le nazisme, donc entre 1918 et 1933, a été un véritable projet utopique, politique, où tout à coup, une majorité d'Allemands ont cru, après des années d'empire assez réactionnaire et archaïque, à un homme nouveau, mais dans le sens noble du terme. On va tout réinventer. On va réinventer l'architecture, on va réinventer la littérature, on va réinventer le théâtre. C'est l'Allemagne de Bertolt Brecht, c'est l'Allemagne de Thomas Mann. C'est cette Allemagne-là, et on a du mal à croire que cette société qui a tellement cru à l'autonomie puisse sombrer aussi rapidement dans les années 30 dans ce que nous savons.
Sophie Galabru.
Oui, moi je suis restée dans le thème parce qu'il y avait un livre dont j'ai parlé qui m'a beaucoup marquée, c'est Le genre du capital des sociologues Bessières et Golac, parce qu'elle montre d'une manière hyper bien documentée, simple d'accès, comment les sœurs surtout, les femmes, les sœurs sont, et c'est pas toujours intentionnel et conscient, sont défavorisées dans l'accès au patrimoine pour multiples raisons. Elles sont les destinataires, elles sont moins destinataires des donations anticipées, elles sont moins visées pour hériter d'une maison de famille ou d'une entreprise familiale dans les milieux indépendants et ruraux, et c'est passionnant à lire.
Michel Vivorca, vous avez pu faire vos devoirs ?
Oui, j'ai réfléchi. Écoutez, mon coup de cœur, c'est pour les démocrates américains qui se réveillent, qui manifestent il y a quelques jours et qui votent dans plusieurs endroits en même temps le week-end dernier, qui votent bien, à mon goût. Et donc, c'était long avant de venir, mais ça commence à venir et donc, coup de cœur pour eux.
Eh bien, merci infiniment à tous les quatre d'être venus ce matin dans l'esprit public. Moi, je vous recommande l'ouvrage de Mélanie Plouvier, dont on a beaucoup parlé sans la citer, et qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission, L'injustice en héritage aux éditions La Découverte. Elle dit notamment que un député, au moment de la Révolution, on n'en a pas parlé, mais je vous livre ça pour terminer, avait proposé qu'on tire au sort tous les héritages. Et ça peut-être, ça nous ouvre d'autres perspectives sur la justice ou l'injustice. Merci infiniment, Arthur Chevalier, d'être venu dans l'esprit public.
Merci.
Auteur, éditeur, chroniqueur, l'histoire à l'épreuve des émotions au CERF en 2024. Sophie Galabru, merci à vous.
Merci.
Professeure de philosophie, autrice de Faire famille, une philosophie des liens en 2023 chez Alary. Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, ancienne directrice générale adjointe chargée de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne. Et Michel Vivorca, sociologue, directeur d'études à l'EHESS. Je cite votre dernier livre avec Jean-Jacques Augier, The Family, une extraordinaire saga dans l'univers des startups. Et merci infiniment à vous de nous avoir suivis comme tous les dimanches. On se retrouve la semaine prochaine en direct à 11h. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast de l'Esprit Public sur l'application Radio France ou sur toute autre plateforme. À dimanche.